On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Avec Monsieur Maximin, vu que j'avais un caractère un peu trempé, puis lui aussi, donc il y a eu des clashs. Mais c'est Jacques Maximin qui m'a fait prendre conscience qu'avec un ingrédient, on est capable de faire centaines de recettes. Juste en le regardant travailler, j'ai eu le déclic d'une cuisine spontanée, quoi.
Toute cette jeunesse qu'il a, ça va être dur pour eux parce qu'il n'y aura plus de mecs à transmettre. Parce que mon chef d'apprentissage, il avait un chef d'apprentissage. Son chef avait travaillé avec Escoffier. Alors maintenant, forcément, on sort de l'école, boum, on se fait trois navets à la mort moelle-neuve, pof, toute cette bande de jeunes-là. Moi, j'y crois. Ça, c'est une race à part. Ça, c'est la vraie race de mecs qui ont fréquenté des gars comme moi. Moi, je vais leur transmettre le virus.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, nous sommes en grande forme. Nous sommes heureux car nous accueillons un très grand du métier. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant son empreinte sur la gastronomie est immense. Jacques Maximin, bonjour.
Bonjour François Régis.
Vous avez fêté cette année vos 70 ans, on peut le révéler à nos auditeurs quand même.
Pourquoi pas?
Et sur ces 70 ans, vous en avez passé 56 derrière les fourneaux. Technicien hors pair, meilleur ouvrier de France. Une carrière menée tambouille battante depuis votre Pas-de-Calais natal jusqu'à la Côte d'Azur. Vous êtes d'ailleurs l'un des rares chefs vivants pour lesquels vos pairs utilisent le terme de génie. Et ce n'est peut-être pas exagéré, vous allez nous raconter votre passionnante aventure. Mais on vous reçoit aussi pour un livre pour lequel j'ai déclaré ma flamme. Alors, petit reminder, petit rappel pour ceux qui ne s'en souviennent pas. J'ai déclaré ma flamme lors d'une émission que j'ai animée en mars dernier depuis le Salon du Livre pour ce livre, Jacques Maximin cuisine les légumes, un livre que vous avez signé avec Martine Joly aux éditions Albin Michel en 1998. Et à la suite de cette émission, les éditions Albin Michel ont eu l'excellente idée de le rééditer 20 ans quand même après sa parution. C'est une somme qu'on recommande à tous ceux qui veulent apprivoiser la cuisine légumière. On va se pencher avec vous, cher Jacques Maximin, sur de splendides recettes préparées en direct par une fine équipe. Il y a des gens qui travaillent pour vous et qui sont en train de dresser des assiettes autour des légumes. Il y a de l'avocat, il y a les dernières tomates de la saison, on va voir ça. Et puis nous recevrons aussi tout à l'heure Jacques Maximin, un de vos anciens disciples à qui on a demandé de s'approprier votre livre. Je ne vous en dis pas plus. Dans les fauteuils des chroniqueurs en ce dimanche, Estherelle Payani et Jérôme Gagnès. Bonjour les amis.
Bonjour François Régis.
Bonjour à tous.
Estherelle.
Oui, alors j'ai une petite confession à vous faire. Je suis accro à une herbe.
Ah, je le savais. Ah oui.
Bon, c'est ça déjà. Restera dans les limites de la légalité, vu qu'il ne s'agit que de la verveine, je vous rassure.
Ah, on est rassuré. Vous aimez la verveine ou pas, Jacques Maximin?
Moyennement.
Ah, elle va essayer de vous convaincre, ça commence bien. Estherelle, vous allez voir, va peut-être essayer de vous réconcilier avec cette herbe estivale qui joue les prolongations. Jérôme?
Oui, alors moi, c'est lorsque l'Alsace rencontre l'Italie.
Ah, petite énigme que l'on va résoudre dans le verre au cours de cette émission. Côté régie, Laurent Thomas, Rémi Sistiaga, Nadia Chougui. Les recettes de Jacques Maximin, nos infos pratiques sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, On va déguster.
J'ai une petite adresse à vous conseiller, cher Jacques Maximin. Une adresse de la semaine, je vous emmène sur les hauteurs de Belleville, dans le 19e arrondissement. Je vous entraîne dans un café qui ressemble à un café. Devanture de café, pilier en fonte de café, brouhaha de café, sauf que je ne suis pas là pour me jeter un café au comptoir, mais pour bien plus, bien mieux que cela, pour goûter la cuisine de Léa Fleuriot. Et là, je me tourne vers Estherelle, dont les yeux brillent. Léa Fleuriot, ça vous dit quelque chose, hein?
Mais oui, c'est le Cadoré dans le 19e arrondissement.
Bravo.
Ouais, j'avais adoré. Et puis, j'avais eu la chance de goûter déjà sa cuisine quand elle tenait une petite sandwicherie qui s'appelait Du bout des doigts.
Ah bah voilà.
Dans le 2e arrondissement.
Vous l'avez connue bien avant moi. Moi, je l'ai découverte il y a quelques jours. Et effectivement, cette Léa Fleuriot, elle est diplômée d'histoire de l'art. Elle a fait un bachelor Ferrandi. Et elle s'est retrouvée d'abord dans une sandwicherie. Et ensuite, elle a jeté son dévolu lu sur un ancien troquet qu'elle a rebaptisé le Cadoret, comme vous le dites. Et le Cadoret, c'est le nom du lieu où était située la ferme de sa grand-mère en Normandie. Elle a fait une belle toilette à ce café. Elle l'a repris d'ailleurs avec son frère Louis-Marie. Elle a créé une cuisine ouverte et elle envoie une sacrée cuisine de marché. Alors comment définir cette cuisine de marché? On va dire que c'est une cuisine d'humilité qui n'a d'autre ambition que d'être une belle popote du quotidien, fraîche, nourrissante. Et en même temps, cette cuisine est irriguée de bonnes trouvailles. Il y a toujours cette petite intuition qui tombe juste et qui rend vraiment sa cuisine attachante. J'ai dégusté trois plats, vous voulez savoir de quoi il s'agit?
Oui.
Une poêlée de haricots coco. Vous aimez ça, le haricot coco, ou pas?
Oui, j'en fais. On en fait beaucoup du côté de Nice. Hein.
Absolument.
Énormément. Hein.
Spontanément, vous le cuisineriez comment?
Le truc avec les cocos blancs, c'est de mettre beaucoup de sauge.
Oui, et bien là, je crois qu'il y en avait un petit peu.
Hein?
Des haricots croquants avec quelques moules.
Croquants, enfin, même pas, quoi.
Ils étaient un peu...
Pas des haricots verts. Hein.
Croquants fondants. Avec un peu de chou-rave, le tout lié avec un jus de fumée de poisson, un peu de beurre frais, des herbes fraîches, dont un peu de sauge, qui apporte de la profondeur et de la sapidité à ce plat. En plat, j'ai mangé une bonite, vous savez, la petite cousine du thon de première fraîcheur. Elle était juste snackée, réveillée par un coulis de poivrons très fruité. Il y avait également une tombée de choux pointus, juste tombée au beurre, c'était formidable. Et en dessert, un financier, mais qui était fondant, vous savez pourquoi? Parce qu'elle cuit son appareil à financier dans un moule à quai, qui est pas du tout dans les moules à financier, ces petits lingots qui rend, dit-elle, le financier un petit peu sec. Voilà, et c'était avec une poire pochée au sirop et une crème anglaise blindé de vanille, bien vanillé. Vous savez la faire, la crème anglaise?
Oui, quand même.
On commence à le chercher un petit peu, Jacques Maximin, histoire de le réveiller. Combien la formule déjeuner avec ces trois plats?
Je passe mon
25
tour.
Euros.
20 euros.
Ouais.
20 euros. Que des bons produits de saison.
5.
Bien sourcés. 20 euros. Et si vous prenez que deux plats, c'est 17 euros. Vous savez, Estherelle? D'autant qu'il y a des plats que vous y avez aimés aussi.
Moi, j'y retournerais bien goûter la sauce béarnaise. Je me souviens d'avoir trempé quelques frites dans une sauce béarnaise vraiment très classique.
Oui.
La petite note qui allait bien d'estragon, un délice.
On demande à notre meilleur ouvrier de France la définition d'une béarnaise ou pas? On ose? Jacques Maximin?
Non, c'est une blague ou quoi?
Je ne sais pas si vous allez pouvoir finir l'émission, François Régis, là.
Allez-y.
Non, mais c'est bien gras quand même, là. Hein. Frites et béarnaise.
Oui.
Alors la béarnaise, non mais c'est...
Pour le plaisir.
Oui.
Alors il faut d'abord faire une réduction d'échalote avec vinaigre, très bon vinaigre. On passe cette réduction, on la laisse refroidir. On ajoute les jaunes d'œufs, on cuit un sabayon. Ensuite, il y a deux versions. Il y a la version montée carrément au beurre clarifié.
Oui.
À la même température, c'est le principe des sauces émulsionnées. Ou en direct avec du beurre très froid. Bon, voilà. Ensuite, estragon. Cerfeuil concassé, et normalement, le tour est joué.
Génial. Et vous savez.
Et ça, c'est la déclinaison de beaucoup d'autres recettes, comme la sauce choron, c'est une béarnaise, tomatée.
Et quand on remplace l'estragon par de la menthe, on obtient une sauce.
Une sauce paloise.
Oula, ouais, bon, d'accord. Allez. Merci beaucoup. Le Cadoret, un café ordinaire pour une cuisine extraordinaire. C'est la nouvelle table de Léa Fleuriot et de son frère Louis-Marie, 1 rue Pradier, Paris 19e. C'est fermé le dimanche et lundi. Mais dès mardi, vous pouvez aller leur passer le bonjour de la part dont on va déguster. On retrouve Jacques Maximin pour cuisiner les légumes après Odetta Hartmann, tout droit sorti du jukebox de notre ami programmateur Djoubacar. On a faim sur France Inter. It's like climbing up a mountain. You, it's like drinking from a fountain. You, it's like swimming in a river. You, the way you touch me makes me shiver. And I wanna run to the edge of the earth with you. And I wanna run to the edge of the earth with you. It's perfect with you. It's like you got them superpowers. You make me bloom just like a flower. Devour me. It's better when we're together. Whatever you say, I just wanna stay with you forever. And I wanna run to the edge of the earth with you.
perfect with you, Ryan. To the edge of the earth with you. And I wanna ride to the edge of the earth with you. It's perfect with you, Ryan. To the edge of the earth with you. Yeah, I wanna ride to the edge of the earth with you. It's perfect with you.
Sur France Inter, je déguste, tu dégustes, on va déguster.
Vous saurez qu'il n'y a aucun légume poché dans cette salade niçoise, la vraie. Alors, pour faire pour deux personnes, donc, il faut deux tomates, un poivron vert, un peu de févette, celles-ci ont été blanchies mais crues, ça va très bien, de la cébette, deux œufs durs, des filets d'anchois, du thon, des artichauts violets, olives noires naturellement, une gousse d'ail, un concombre, de l'huile, du poivre et du gros sel. Moi, je mets du gros sel, d'autres mettent du sel fin et naturellement le basilic.
Jacques Maximin, dans un reportage qui vous était consacré en 2011, la salade niçoise, c'est votre dada. Je dirais même plus, c'est votre combat. Vous en êtes un ardent défenseur depuis des années et Dieu sait si elle a eu besoin d'être défendue, cette salade, parce qu'elle fut outragée, brisée, martyrisée à coups de riz, de maïs, de pommes de terre, de cœur de palmier. À l'origine, c'est une salade de printemps qui peut jouer un peu les prolongations en été, ça dépend un peu, pour peu qu'on choisisse évidemment des légumes de saison. Mais c'est bien ça, une salade niçoise, ce sont des crudités. Et le seul ingrédient qui est cuit, c'est l'œuf.
Oui, on peut dire ça. En fin de compte, je ne me bagarre pas spécifiquement pour cette salade niçoise, mais je sors un peu toujours de mes gonds quand je vois des conneries monumentales dans la presse, de jeunes cuisiniers en mal d'articles, on va dire. Surtout quand on y ajoute des haricots verts cuits, des petits pois, non. Et quand c'est pas la patate ou les carottes râpées. Bon, alors à un moment donné, faut recadrer un peu tout ce petit monde, parce que sinon la cuisine française, de façon générale, ça va se barrer, quoi. Ça va se barrer dans tous les côtés. Je suis pas le père Fouettard, hein, attention, hein, je suis pas le redresseur de tort et je m'en défends, mais je reste à l'affût de ça pour le maintien des traditions en ce qui concerne ma région.
Bien sûr, et même une chose que peu de gens savent, c'est vrai qu'on vous connaît comme le maestro de la grande cuisine Riviera, avec d'ailleurs sa dimension assez luxueuse, vous êtes un grand technicien, vous êtes à l'origine de nombreux plats signatures qui ont été copiés dans le monde entier, et pourtant, vous êtes aussi très attaché effectivement au répertoire presque paysan ou ménager de Nice, et du comté de Nice, où vous avez beaucoup officié, à tel point que vous avez été le nègre, le codificateur d'un livre référence sur la cuisine niçoise, ah oui. La cuisine du comté de Nice, publié exactement. Quand même en 1972 par un certain Jacques Médecin, ancien maire de Nice, qui s'y connaissait en matière de casserole.
Non mais il y a eu deux éditions.
C'était un grand gourmet ce maire.
Non seulement, alors là, bon, je vais quand même vous en dire un petit mot, il y a eu deux éditions. La première édition, qui avait toujours le même titre, tout petit recueil bleu, là, insignifiant. Et la deuxième édition, là, j'y ai participé de plein fouet, quoi. Mais la démarche de Jacques Médecin, qui était non seulement un très bon gourmet, un excellent gourmet, mais un praticien hors pair, parce que il suffit pas d'en parler, il faut savoir la faire. Or, il la faisait très bien, la cuisine. Et puis, bon, bah, moi, je lui ai apporté les éléments nécessaires pour cette deuxième édition. J'en garde un souvenir extraordinaire. Et je considère, en fin de compte, c'est mon vrai dictionnaire niçois, de cuisine niçoise.
C'est ça. Alors moi, j'ai un problème, Jacques Maximin. On vous invite évidemment pour ce formidable livre dont on a fait plusieurs fois la promotion, auquel on l'a compris, on est très attaché. Jacques Maximin cuisine les légumes. Moi, à titre personnel, je cuisine avec depuis 20 ans, très précisément. Je l'avais acheté en 98 et quand j'étais étudiant à Paris, j'ai appris à cuisiner tous les légumes avec cette Bible que je considère vraiment comme le vade-mecum de la cuisine légumière. Et pourtant, à la recette salade niçoise, des haricots verts.
Ah ouais, non mais attendez, là, dans ce qui concerne ce petit bouquin là, extraordinaire.
Que vous avez signé quand même, Jacques Maximin.
Oui, bien sûr, non mais on a rédigé ça et à quatre mains.
D'accord.
Martine Joly, qui est la co-auteur de cet ouvrage, très sincèrement, ça m'a échappé. Mm-hmm. Parce que j'aurais pas laissé passer. Mais comme elle était entre guillemets paix à son âme, un peu cabocharde, j'ai levé le pied, j'ai pas insisté, j'ai dit bon, ça va passer, le soleil va se coucher et ça ira mieux. Mais effectivement, il y a eu un problème là.
Et ça, Alpagani ?
À Nice, il y a la présence de concombres aussi, qui est souvent débattue dans les familles. Finalement, la recette de salade niçoise, il y en a presque une dans chaque famille, du moment qu'on respecte la règle du cru. Moi, j'ai vu aussi du céleri, souvent dans ma famille. Ouais. Vu mon prénom, je ne peux pas le cacher.
Non, mais du céleri, vous voyez aussi du radis, souvent, très souvent.
Oui. Ça, on est quand même dans, ouais, non, mais dans les clous.
Concombre ou pas concombre, Jacques Maximin ?
Concombre.
Venons-en à Jacques Maximin, cuisine les légumes, 60 légumes, 420 recettes, qu'Albin Michel réédite en 2018. Vous l'avez co-signé à l'époque avec Martine Joly, on peut préciser que c'était l'épouse de Claude Lebet, ouais, grand critique gastronomique, auteur du guide Lebet d'ailleurs, et éditeur chez Albin Michel à l'époque, c'est grâce à lui hein,
ouais, c'est ça,
que ce livre a été fait. Alors je l'ai sous les yeux, 60 légumes sont classés par ordre alphabétique, dans une maquette on peut le dire assez austère, pas de photos. Mais alors, quelle précision dans tous les légumes qui sont vraiment de A à Z avec leur méthode de nettoyage, de préparation, de cuisson, des recettes qui sont à la fois familiales mais également plus personnelles, des recettes de grands chefs telles que vous les avez cuisinées dans vos différents restaurants. On commencerait par une petite recette ?
Oui, tu voulais ?
Une crème de concombre par exemple ?
Oui, alors là tu as une crème de concombre glacée, c'est bien pour l'été, c'est aussi pour le printemps, puis pourquoi pas l'automne ? Surtout en ce moment, c'est simplement des concombres étuvés au beurre qui sont inondés de crème fraîche. Le tout est un peu réduit, mixé, bien refroidi. Si cette purée est un peu trop liquide, on peut ajouter 2 cuillères de crème béchamel et je finis avec un peu de crème fouettée, des petites billes de concombre, du sel, du poivre et bon. C'est une crème toute bête, quoi. Mais il fallait y penser à cette crème de concombre glacée, quoi.
Alors, Jérôme Gagnez, vous en avez un petit peu dans la barbe.
Ah, ouais, c'est d'autant meilleur. C'est d'autant meilleur que j'aime énormément le concombre.
J'ai cru que vous alliez me dire j'aime beaucoup la crème fraîche.
Ah oui, ça, c'est pas nouveau. Crème fraîche et beurre sont indispensables à toute vie humaine.
C'est délicieux.
Oui, c'est très bon.
Cette texture mousseuse, on l'obtient comment, chef Maximin ?
Au mixeur.
On la mixe, ah ouais, pour la foisonner en quelque sorte.
C'est ça.
On dirait presque une chantilly.
Si j'ai... Oui, c'est vrai, on n'est pas loin d'une chantilly avec ses notes presque un peu iodées et salines.
Ouais, mais c'est
du
parce
concombre.
Que quand le concombre est cuit avec la crème, bon, vous mixez, vous allez obtenir une pâte, mais il ne faut pas oublier de rajouter la crème fouettée.
Dites-moi une chose, j'ai entendu étuvé au beurre, est-ce à dire que le concombre n'est pas cru ?
Ah, bien sûr que non.
Définition d'étuvé ?
Bah, l'étuvé, bon, bah, c'est cuire à couvert, à oui, petit feu.
Et pourquoi ne pas le garder cru dans cette crème de concombre ?
Parce que à cru, cette recette-là, je lui donnerais une dizaine d'heures de vie. Parce qu'au-delà, je crains la fermentation, à ce moment-là, le coup est raté.
Elle est exceptionnelle, cette recette.
Oui, celle-là est très bonne.
La recette à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Et évidemment, dans la réédition de ce livre chez Albin Michel, Jacques Maximin cuisine les légumes, et les légumes de partout d'ailleurs, c'est ça qui est très bien, les légumes du Nord, les tubercules, les légumes racines, mais également bien sûr, les légumes du Sud, comme une certaine courgette.
La courgette, qui était le plat de pauvre par définition, je l'avais anoblie avec les truffes. Courgette à la fleur et aux truffes. Alors ça... Ça fait le tour du monde. Voilà l'approche, la façon de repenser la cuisine niçoise.
À quoi on mesure l'influence d'un chef au nombre de ses plats signatures et des plats signatures qui ont été copiés dans le monde entier ? Courgette, truffe, ça fait partie d'un répertoire, oui, que vous avez signé et qui a vraiment voyagé dans le monde entier.
Oui, chacun de nous, en ce qui concerne les cuisiniers qui se sont fait un nom, trois gros, c'est le saumon à l'oseille, mon pauvre copain Robuchon, c'était la pomme purée. Alors, c'est dommageable parce que quand on connaît le parcours et le répertoire de Robuchon,
on l'aurait dû à une purée. Bon, oui, mais quelle purée ?
Ça, ouais, quelle purée. Enfin, tout le monde se balade un peu avec sa petite recette dans le dos. La mienne, c'était les courgettes parce que c'était le légume de base de la cuisine niçoise. Et pour ce faire, il fallait quand même l'anoblir. On est vers la fin de la construction de la recette parce que le début est assez assez extraordinaire. J'ai rencontré dans les années 78 une dame qui s'appelle Madame Oda à Carrosse avec des bébés courgettes. Alors moi qui ai travaillé chez Verger au Moulin Mougins, on faisait des poupetons de fleurs de courgettes. Mais oui, c'était la fleur mâle. Tout le monde ne sait pas, mais il y a une fleur mâle et une fleur femelle. Mm-hmm. Et la fleur femelle, c'est le corps et la fleur attenant. Donc, le calibre me convenait très très bien, environ 7-8 cm, et attenant avec cette fleur. Donc, j'ai pris ça comme un gadget, j'ai ramené ça dans la cuisine. À l'époque, j'avais 2-3 copains qui me donnaient un coup de main dans un cuisinier important, mm-hmm, comme Cyrino, comme Franck Cerruti, etc. etc. Et j'ai dit, tiens, ce serait pas mal de peler la courgette et de faire avec cette peau une farce.
Oui.
Et cette farce, la mettre dans la fleur. Une recette autosuffisante, quoi.
C'est ça.
Et alors, on s'est lancé dans l'opération. Ça dura un certain temps pour la mettre au point pendant 6 mois. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que cette graine-là, on est allé jusqu'à Los Angeles pour trouver un grainetier, pour avoir cette petite graine qui nous donne toujours la même dimension de la courgette et de la fleur. Bon, le succès, on le connaît. Cette courgette a parcouru le monde entier. Tout le monde y est allé de sa recette. Mmh. Et un jour, me trouvant à Hong Kong, on débarque l'avion et on m'interpelle. On me dit, mais monsieur Maximin, il y a encore 12 cagettes de courgettes. Je dis, mais c'est quoi ces cagettes de courgettes? Et je regarde, c'était pour un concurrent de l'hôtel qui m'avait embauché à Hong Kong. Alors,
Allait copier votre recette, c'est ça?
Alors, j'étais tellement abasourdi. Je suis rentré en France, j'ai dû aller voir le producteur, j'ai dit, t'es vraiment un salaud. Et depuis ce temps-là, j'ai arrêté de les faire. Parce que c'est comme la crème brûlée. Le jour où Bocuse, qui avait pompé cette recette-là au cirque à New York, a été faite par un Catalan.
D'accord.
Et Bocuse, qui était copain avec le patron, avait ramené la recette. Elle a inondé la France. Et après, tout le monde en faisait. Ben moi, la courgette, c'est pareil. Le jour où j'ai vu que tout le monde la faisait, j'ai arrêté.
Et ben voilà, c'est ça qui fait sans doute votre côté génial. Vous citiez évidemment Roger Verger, Moulin de Mougins. On peut considérer que Roger Verger, c'était un peu le cerveau méditerranéen de la nouvelle cuisine.
Alors, un petit clin d'œil en passant vite fait. Les personnages importants en matière de cuisine sur la Côte d'Azur sont tous étrangers à la région.
Louis Houtier.
Non mais, par ordre. Louis Houtier, Oasis à la Napoule, territoire de Belfort. Roger Verger de Commentry, dans l'Allier. Joseph Rostand de l'Isère, Sassenage. Et moi, petit dernier, du Pas-de-Calais.
Et vous oubliez
Ducasse ? Donc, c'est 4 personnes. Non, mais Ducasse, c'est arrivé après.
C'est vrai.
Non,
mais, c'est le petit jeune, c'est ça que vous dites.
D'accord. Ducasse, il a pris le train en courant. Bon, faut pas oublier, mais la locomotive était déjà...
Évidemment.
Elle avançait, bonne blague. Et ensuite, on s'est rendu compte que nous, on a porté un regard à la fois sur les produits, sur ce qui se faisait. Et on s'est dit, mais bon, c'est pas possible de s'arrêter là. Il y a tellement d'autres choses qui n'ont pas encore été faites. Vous comprenez? Voilà.
Bien sûr. Vous avez travaillé au Champ de Clair, le restaurant du Negresco en 78. Ensuite, il y a eu l'aventure du théâtre Jacques Maximin. Vous avez eu ce célèbre bistrot de la Marine à Cagnes-sur-Mer. Aujourd'hui, vous êtes, on va dire, en demi-retraite. Hein. Vous avez fermé votre bistrot à Cagnes-sur-Mer, mais vous continuez le consulting gastronomique un peu partout, de très belles maisons.
Oui, j'ai monté une société de consultants, donc je travaille un peu partout. C'est un autre boulot très intéressant, attention. Et en plus, je me lance dans la transmission de ce que je n'ai jamais fait, transmettre mon savoir-faire à des particuliers. Je vais faire des cours de cuisine chez moi. Donc là, ça va être une vraie révolution. Parce que moi, je suis pas pédagogue dans l'âme. Mm-hmm. Mais à part ceux qui m'ont côtoyé.
Oui.
Bon, encore, il fallait voler le métier. Hein.
On va d'ailleurs, dans un instant, donner la parole à quelqu'un que vous avez formé, qui est en train de faire son trou aujourd'hui à Paris. Mais pour l'instant, on va juste aller voir ce qui se passe dans le verre ou les verres de notre chroniqueur Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Voilà, ça, quand il annonce son arrivée, c'est en général avec un bruit de bouchon. Jérôme Gagnez, bonjour.
Bonjour, rebonjour à tous. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait s'intéresser à l'Alsace qui regarde vers l'Italie. C'était pour vous parler, en fait, je vais vous parler de deux vins.
Oui.
Un premier alsacien, un deuxième ligérien de la Loire. Commençons avec l'Alsace. Le thème d'aujourd'hui, c'était bien évidemment la cuisine de Jacques Maximin et la cuisine des légumes. Et dès que j'ai entendu parler de ce thème, m'est venu à l'esprit tout de suite un souvenir que j'avais d'une très belle assiette de légumes. C'était assez simple, des légumes cuits, relativement croquant dans un petit restaurant italien qui s'appelle Naturellement, rue Mademoiselle, oui, dans le 15e.
Qui fait d'ailleurs beaucoup de vins italiens naturels.
Exactement, chez Giovanni. Et j'avais goûté avec ça des vins de macération et ça faisait un accord absolument extraordinaire parce que le caractère un peu végétal d'un blanc de macération venait rejoindre le caractère végétal des légumes. J'ai beaucoup beaucoup aimé cet accord et j'ai ensuite essayé de le reproduire à plusieurs reprises avec divers succès. Mais le fait est, c'est que c'est vraiment un accord qui fonctionne. Et donc j'ai évidemment sauté sur l'occasion quand on m'a parlé de Jacques Maximin pour vous parler d'un vin que j'ai goûté au mois de mars dernier, d'un domaine que je connaissais de nom mais dont je n'avais jamais goûté les vins, c'est le domaine Philippe Brandt.
Oui.
Alors, Philippe Brandt, il est tout au nord de l'Alsace, à l'ouest de Strasbourg, donc vraiment au nord-nord du vignoble alsacien.
Vous avez perdu votre accent alsacien ?
Non, c'est au nord de Colmar.
Ah, pardon.
À l'ouest de Strasbourg.
D'accord.
Et Philippe Brandt, il fait notamment des vins de macération. Et pourquoi je parlais de l'Italie? Bien,
vous
c'est
nous
parce
redonnez
que...
juste une petite définition, si ça vous ennuie pas trop, de vin de macération.
Alors, la vin de macération, en fait, le principe, c'est que quand on fait un vin blanc, on ne fait pas macérer la peau ni rien dans le jus. Hein. On presse les raisins et on obtient un jus qu'on va transformer en vin. Alors que là, la macération, on va laisser les peaux des raisins blancs macérés dans le jus, en l'espèce, chez Philippe Brandt, une quinzaine de jours. Il a commencé à faire ça parce qu'il a goûté les vins d'un monsieur qui nous a malheureusement quitté très récemment, qui était un des grands vignerons de vins de macération en Italie, qui s'appelle Stefano Bellotti.
Et oui. 59 ans.
Exactement. Et c'est en goûtant des cuvées de chez Stefano Bellotti qu'il a eu l'envie de d'essayer chez lui de faire ça. Alors bon, très brièvement, il a repris le vignoble. Son père l'avait converti à la bio en 2001. Lui, il le convertit en 2014 à la biodynamie et il commence à faire des essais de vinification sans soufre. Alors vous savez, la réserve que j'ai à l'égard des vinifications sans soufre, c'est un exercice qui est particulièrement délicat et c'est souvent, malheureusement, le résultat est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend. Mais quand c'est réussi, c'est formidable. Et l'avantage quand on a un vin blanc de macération, c'est que les peaux, la macération des peaux, elles vont nous apporter de la structure, elles vont nous apporter des polyphénols qui sont, eux, des antioxydants naturels. Donc, on se facilite aussi un peu les choses avec cette macération pour faire et vinifier des vins sans soufre.
Ça permet de mieux les conserver.
Exactement. Et donc là, on va déguster un vin qui s'appelle Tout Terriblement. C'est un très beau nom. C'est comme ça que se termine un poème d'Apollinaire. Donc Tout Terriblement, c'est une macération de Gewürztraminer. C'est un 2016.
Donc c'est un Gewürz.
Exactement. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que le cépage, eh bien, il s'efface. Ce cépage qui est souvent si intense, si puissant, parfois un peu fatigant quand il s'exprime avec un peu de vulgarité sur des notes un peu barbantes, d'eau de rose, litchi, un peu marquées. Là, pas du tout. On a vraiment l'archétype de ce que sont les arômes d'une macération.
Qu'est-ce qui se passe au nez ?
Avec notamment... Moi, j'adore ce nez, avec notamment des notes d'infusion assez intenses, un côté un peu poivre blanc. On avait parlé du poivre blanc déjà quand on avait fait goûter le Fiano. Fiano, vin italien qui était fait dans le Basilicate, enfin, à la frontière entre la Campanie et le Basilicate. Bref, là, ce Gewürztraminer qui s'appelle donc Tout Terriblement 2016 de Philippe Brandt. Voilà un vin qui est vibrant, voilà un vin qui a de l'intensité, voilà un vin qui a une colonne vertébrale avec une belle acidité et surtout, et c'est ça qui vient, et c'est ça qui nous amène aux légumes, une grande et très fine et très belle amertume, des beaux amers nobles qui vont venir chercher le légume sur ce caractère végétal. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ce vin aujourd'hui.
Un budget ?
Alors, c'est pas donné parce que c'est des tout petits rendements, parce qu'il y a beaucoup de travail pour faire un vin comme ça. C'est un vin qui est à 25 euros au domaine.
D'accord. Domaine Brandt.
Et puis quand on a parlé aussi de végétal, je me suis dit, tiens, il y a un moment où on nous bassine avec le côté végétal du Cabernet Franc, c'est quand le Cabernet Franc est pas mûr. Ben moi, je pense que c'est pas tout à fait vrai et que ça mérite un peu plus de nuance. Cabernet Franc, c'est un cépage absolument admirable qu'on trouve beaucoup dans la vallée du Rhône, notamment dans le Saumurois, à Saumur-Champigny, et on en trouve, évidemment pas seulement là, mais aussi au château de Villeneuve, Saumur-Champigny 2016 du château de Villeneuve. Et là, on a l'archétype d'un beau Cabernet Franc de Loire sur des calcaires tendres du Turonien, cette pierre un peu jaune, ce calcaire très, très tendre, très crayeux, qu'on appelle le tuffeau. Ça donne ce Cabernet assez tendre et en même temps avec cette fine présence de l'arôme de poivron vert qui est une des expressions typiques de ce cépage. N'en déplaise aux esprits grognons qui considèrent que c'est un défaut. Ça l'est quand ça ne sent que ça. Mais quand il y a en filigrane finement ce côté pyrazine, qui est le nom un peu technique de l'arôme de poivron, eh bien ça donne aussi un vin qui est admirable pour aller chercher le légume. Et quand on aime les légumes comme moi, eh bien on est content d'avoir des vins comme ça. Donc voilà un très joli vin. Ça alors pour le coup c'est donné, il faut l'acheter par wagon parce que c'est donné. Et le boire en magnum à deux quand l'autre ne boit pas.
Avec modération, évidemment.
Évidemment. Hein. Qui est revenue de vacances, finalement. Quand on pensait qu'elle était restée en vacances, elle est pénible, hein, elle est collante. Alors, 11,50 au domaine. Voilà un joli rouge. Ça donne soif, c'est juteux. C'est un vin qui est admirablement réalisé. C'est en bio depuis aussi un certain moment. Jean-Pierre Chevalier, au château de Villeneuve, est là depuis très longtemps, depuis plus de 60 ans. Enfin, pas lui, mais ses parents avant.
Jacques... Boire frais.
Alors, en l'occurrence, moi, je considère que certains rouges, que ce soit de Loire ou d'ailleurs, lorsque la trame tannique est affine, il faut les boire à température de cave, 15 degrés.
Pas moins de 14 degrés.
Non, après, faut vraiment. Alors après, on cache les défauts. Alors, on servait dans la restauration parisienne des très mauvais cabernets de Loire à 12 degrés, mais c'était pour cacher la misère.
Merci beaucoup. Toutes les références, évidemment, sur franceinter.fr à la page On va déguster. Jacques Maximin, buvez vos paroles à défaut de boire vos vins. Il est très sobre aujourd'hui. Hein. Bon, on lui en voudra pas. Dans un instant, on se retrouve pour une petite surprise. Jacques Maximin, un ancien élève qui a expérimenté votre livre de cuisine. On se retrouve aussi, évidemment, pour une autre recette. Tenez, par exemple, avocat à l'œuf dur. Tout ça, c'est juste après. Mélissa Lavo, Angelico. Vous êtes toujours sur France Inter. Cuisine de Jacques Maximin, c'est le menu très végétal dont on va déguster en ce dimanche 21 octobre. Jacques Maximin, expliquez-moi une chose, quand on tape votre nom sur Google, aucune fiche Wikipédia, et pourtant vous êtes reconnu comme un cuisinier hors pair.
comme il en existe peu par génération. La profession vous considère, on le disait, comme un génie. Le catalan Ferran Adrià, le père de la cuisine moléculaire, évoque votre cuisine avec des trémolos dans la voix. Alain Ducasse, votre fidèle ami, loue votre connaissance encyclopédique des techniques culinaires. On a eu l'occasion de s'en apercevoir. Meilleur ouvrier de France, vice-président du concours des MOF, grand collectionneur de livres de cuisine. Il paraît que vous en avez plus de 3000.
Non.
Beaucoup plus.
J'ai pas compté, non, moins quand même. Mais Ducasse me dépasse de loin.
Mais vous ne collectionnez pas que les livres de cuisine.
Oui. Donc j'ai la passion de la collection des arbres, de l'art contemporain pendant très longtemps.
Parce qu'il faut préciser que les artistes de l'école de Nice ont beaucoup fréquenté votre table,
c'est
de César à Armand, Farry,
Sosnaud, enfin bon, à peu près tous, mais... D'ailleurs, ça m'a inspiré une recette, César. Le tian que j'ai créé en petite galette, les tians de Saint-Jacques et d'agneau, ça vient d'une compression de César. En plus, c'est vrai. Oui, je collectionne pas mal
César
de choses.
César qui a d'ailleurs brossé votre portrait.
Ouais, exactement. Exactement. Alors, oui, j'aime bien les collectionner. Les figurines, les livres de cuisine, les bagnoles, les chiens. Il y a eu beaucoup de chiens.
Ça, c'est votre côté... Dr Jekyll. Puis on vous prête aussi un côté Mr Hyde, un côté bad boy, enfant terrible. On vous a surnommé dans la presse, on a fait une revue de presse assez copieuse, le Kerouac des fourneaux, le Al Pacino des casseroles avec votre visage buriné taillé à la serpe. Vous avez même eu le droit à Gainsbourg des fourneaux, ça c'est sans doute votre côté fumeur de gitane.
Ouais, peut-être.
Toujours.
Oui, toujours. Ça fait partie de mes défauts, quoi.
On dit que vous êtes un écorché vif avec un sale caractère.
J'ai du caractère.
Oui.
Moi, j'ai du caractère, mais je connais pas beaucoup de cuisiniers qui n'ont pas de caractère. J'ai pas dit mauvais caractère, j'en connais, mais en principe, pour être à la tête de quelque chose, faut avoir du caractère. J'en ai.
Bonjour Julien Dumas.
Bonjour.
Vous avez 38 ans, vous êtes le chef de Lucas Carton, une maison dont on connaît le nom quand même, hein, puisque avant vous, il y a eu notamment le grand et regretté Alain Sandrins. Grand cerveau là aussi de la nouvelle cuisine, place de la Madeleine. Vous avez travaillé avec Jacques Maximin.
Oui.
On entendait dans le son d'accroche que justement vous aviez tous les deux mauvais caractère, qu'il y a eu des clashs.
Non, il a du caractère. Je m'en suis rendu compte parce que bon, c'était pas évident de diriger le restaurant dans lequel on a exercé tous les deux. Faut vraiment avoir du caractère, et il en a.
Comment ça s'est passé avec Jacques Maximin?
C'était où déjà?
C'était au Rèche, dans le 17e. Et c'est
le Rèche, on parle d'une brasserie marine d'Alain Ducasse pour laquelle vous avez fait il y a quelques années du consulting,
oui,
hein, Jacques Maximin.
C'est plus qu'une brasserie. Hein.
Oui, c'est un restaurant gastronomique autour du poisson.
Quand même.
Et comment ça se passe avec Jacques Maximin? C'est sûr que quand on est habitué à suivre des recettes au quotidien, dans des livres, entre guillemets, hein, mais qu'on ne doit pas trop sortir de ces carcans-là, la première rencontre, ça se passe pas comme on le veut, quoi, parce que Jacques Maximin, c'est quelqu'un qui a la cuisine en lui, quoi. Donc il met sa technique au service de la cuisine, quoi. Et on est au service de la créativité. C'est quand on le regarde cuisiner, il faut, comme il l'a dit, voler le métier. Et en le regardant cuisiner, c'est naturel, en fait, et c'est ça qui était vraiment touchant, en tout cas.
Beaucoup de gens dans le métier parlent de vous en train de cuisiner, cette espèce de spectacle, à la fois un mélange de transe et d'extrême concentration.
Vous parlez de moi?
Oui.
Ah oui, ça peut être un spectacle. Ça dépend de l'humeur que j'ai en moi au moment. Mais oui, parce que moi, je vis la découverte. Moi, je suis pour la découverte, j'ouvre le frigo, et qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je l'ai appris, moi. Tout jeune, j'ai pas bouffé le métier. Je l'ai pris en bas et pour arriver en haut. Et la route est longue. Et alors, maintenant, forcément, quand on a un peu d'expérience, il y a qu'une chose qui peut nous intéresser, c'est de découvrir, d'imaginer. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que j'ai essayé de transmettre à Julien.
Et Julien Dumas n'est d'ailleurs pas le seul. Vous avez une liste longue comme le bras d'élèves très importants dans le paysage gastronomique français que vous avez formé. Vous pouvez citer quelques noms. On va peut-être en oublier, mais...
Alors, Franck Cerutti, il n'y a pas d'ordre. Hein.
Franck Cerutti, c'est 3 étoiles à Monaco.
Ouais, c'est ça. Christophe Morel, qui est pas loin d'ici.
À l'Abeille.
D'accord.
Le Shangri-La.
Bruno Cirino.
Oh là là, chef extraordinaire à la Turbie, ouais. L'hostellerie Saint-Jérôme.
En voilà un de caractère.
2 étoiles Michelin.
Ouais. Alain Lorca. par chez moi. Mais j'en oublie tellement Alain Solivares qui était au Taïwan.
Et bien sûr.
Moi, des fois, je le regrette. Je m'en excuse d'ailleurs auprès d'eux là s'ils nous écoutent. Que j'oublie, j'en ai fait pas mal, hein, j'en ai fait à peu près 300 quoi.
Mais on se souviendra d'eux, et Julien Dumas évidemment, même si vous avez eu une carrière ponctuée de beaucoup beaucoup de maisons sur votre CV évidemment, mais cher Esch, avec Jacques Maximin, on vous a lancé un petit défi, Julien Dumas, celui de jeter un œil à Jacques Maximin cuisine les légumes, ce fameux livre. Et vous y avez choisi une recette que vous avez réalisée, que vous nous avez apportée et que vous allez faire immédiatement goûter à votre ancien mentor.
Allez, fais voir.
Qu'est-ce que vous avez choisi, Julien ?
En fait, l'une des premières recettes qu'on a fait ensemble avec le chef, celle qui nous a permis de vraiment avancer ensemble au Resch, c'est pour moi, il s'en souviendra certainement pas, mais c'est un gratin de macaroni. Puis il dit c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis quand il revenait, parce qu'il n'était pas là tous les jours, il est revenu et un jour je lui ai présenté un gratin de macaroni. Et puis il a dit ça c'est comme ça que je le veux finalement. Et puis ça a commencé comme ça. Et depuis c'est une histoire plus qu'au-delà d'un père. Je pense que Monsieur Maximin c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui qui compte pour moi dans ma vie de tous les jours quoi.
Et alors ?
Terrine de poivron.
C'est très coloré. Il y a du jaune, du vert, du rouge, terrine de poivron.
Grillé.
Selon la recette, encore une fois, qu'il y a dans le livre.
J'ai pas voulu trop la bouger. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à côté de ça, il y a quand même une sorte de toast avec de l'anchoyade pour être à Nice. Et puis une salade, un bouquet de salade, parce que le chef aime beaucoup ça aussi. Et qui voilà. Les poivrons ont de la texture, c'est toujours au meilleur le lendemain. Le chef me l'a dit, et donc du coup, je l'ai fait la veille. Et c'est le goût du grillé qui ressort. Et avec
même des notes fumées. Alors,
c'est
chef,
vraiment végétal, là. Hein.
C'est bon, non ?
Très bon. C'est excellent.
Comment on s'y prend, sachant que la recette est sur franceinter.fr à la page, on va déguster, mais en trois étapes, Julien Dumas, cette terrine de poivron grillé.
Poivron grillé, monté dans une terrine, et il faut mettre à chaque couche des poivrons de la gelée. Voilà. Anchoyade, de préférence, si vous n'avez pas le temps de la faire, il faut l'acheter, mais c'est facile, c'est de la purée d'anchois, c'est de l'anchois au mixeur avec un peu d'ail, un peu de mie de pain, un peu de vinaigre, et le tout monté à un peu d'huile d'olive et un peu, hier soir je l'ai appris, de l'huile de tournesol.
De l'huile de tournesol ? Parce que l'huile d'olive seule serait trop forte ?
Eh ben, moi, je l'ai toujours monté à l'huile d'olive, mais c'est vrai que ça permet un peu d'adoucir l'anchoyade et que le goût de l'anchois est vraiment meilleur.
Jacques Maximin, vous validez l'anchoyade, pas 100% huile d'olive, mais un peu d'huile de tournesol ?
Bah oui, c'est moi qui lui ai dit.
Ah, pardon.
C'est pour ça que je vous l'ai dit, je l'ai appris hier soir.
Non, mais sincèrement, c'est l'huile d'olive pure et dure, faut aimer, quoi. D'ailleurs, je conseille à tout le monde, c'est par exemple de mettre 3/4 d'huile d'olive et toujours 1/4 d'huile d'arachide ou de pépins de raisin ou de tournesol. C'est un conseil.
Jacques Maximin, vous faites dans votre livre l'inventaire de 60 légumes, on l'a dit, au fil des saisons sur les étals, mais pas seulement des légumes provençaux, même si c'est ceux que vous cuisinez le mieux. Et la preuve, vous allez nous proposer une recette à l'avocat. Avocat et œuf dur à l'estragon, on en parlait tout à l'heure pour la fameuse béarnaise. Là, elle est utilisée dans une entrée très fraîche, très belle, qu'on a sous les yeux, que vous nous avez préparée. Comment on s'y prend ?
Il faut d'abord faire durcir un œuf dur, le mettre à rafraîchir dans l'eau froide. Ensuite, on fait une vinaigrette. Ensuite, effeuiller un peu d'estragon, hacher finement et mettre 2 cuillères à café dans cette vinaigrette. Ensuite, il faut faire des boules d'avocat. Et ces boules d'avocat, on les met au fur et à mesure à macérer dans la vinaigrette. On roule le tout. On passe un œuf dur dans une moulinette, comme pour faire ce qu'on appelle un mimosa, non ? D'accord ? On pose les petites billes d'avocat mariné,
oui.
Et on ajoute l'estragon haché et un peu de vinaigrette dessus.
Voilà. Et stérile.
Et comme ça, l'avocat n'a pas noirci avec la vinaigrette. Ce qui est super,
oui,
c'est qu'il y a c'est plein d'astuces,
oui,
ménagères. Hein, avec
en fin de compte, c'est ça. Le coup, c'était de faire mariner pour pas qu'elle noircisse ses billes. Très bien.
Tout est dans le détail. Hein.
C'est bon. Œuf dur, avocat, avec la note assez forte, anisée de l'estragon, c'est quelque chose.
C'est à la fois tout simple et super original. Ouais.
Vraiment, vraiment délicieux.
Non mais là, on est en mode ménager. Hein.
Évidemment, vous êtes considéré comme un grand chef des légumes, mais il y a un chapitre de la gastronomie qui vous a beaucoup occupé tout au long de votre vie, c'est la cuisine marine.
L'identité d'un vrai cuisinier, c'est aussi de savoir travailler un produit qui ressemble à rien, ou qui est un produit people, c'est-à-dire la sardine, par exemple, basique. Hein ? Je parle pas de la sardine en boîte, de la sardine fraîche. Même la ménagère a tendance à oublier, c'est souvent gras. Bon, mais justement, le temps de la réflexion peut faire d'un plat de sardine si c'est fait par un cuisinier intelligent, un grand plat.
Qu'elles viennent de Méditerranée ou d'Atlantique, c'est encore un peu la saison des sardines si on obtient de belles saisons fraîches.
De suite, gratter, lever en filet, saler pendant 5 minutes, rincer à l'eau froide, un petit bain de ces filets dans un jus de citron, on va dire 2-3 minutes, de nouveau éponger et mariner carrément dans de l'huile d'olive pendant une heure, on va dire. Voilà, la sardine.
Et ce n'est pas si compliqué de lever en filet une sardine. On prend la tête et on génère.
Non, on gratte et avec l'index et le pouce, là, on tire dessus, ça vient seul.
Pas besoin de couteau.
L'arête dorsale vient spontanément, pas besoin de couteau. On obtient ces deux filets et on les fait mariner selon votre méthode, c'est parfait. Juste une petite question sur une sauce mythique, évidemment, que certains jeunes chefs se sont réappropriés, que moi j'utilise aussi beaucoup depuis des années. Un tout petit mot sur cette sauce 4 quarts.
En fin de compte, c'est pas une sauce 4 quarts, c'est un jus 4 quarts.
Ah, alors de quoi s'agit-il ? Ça, c'est une sauce pour cuire un poisson entier au four.
Je viens de vous dire que c'est pas une sauce.
Pardon, Jacques-Maximin, je me reprends.
François-Régis,
c'est un jus pour cuire un poisson au four entier, on est d'accord ?
D'accord. Si vous faites une dorade, vous mettez, par exemple, un quart d'eau, un quart de jus de citron jaune, un quart de beurre fondu, un quart d'huile d'olive.
Voilà. Fondu mais froid, hein.
Un quart de beurre non fondu. Oui.
On fait un massage à la bestiole. Alors ça peut être un Saint-Pierre, un bar, un loup, évidemment.
Le principe, c'est que il y a un point de rupture. Ce point de rupture, c'est au moment où tout le liquide s'est évaporé et qu'il reste que la matière grasse. Alors là, ça fait trancher. Tandis que l'eau et le citron vont se mélanger avec la matière grasse, ça va former une émulsion. Donc le jus va être lié. Voilà, c'est là. C'est plus un tour de main. Hein. Mm-mm. C'est une recette qui est venue comme ça. De toute façon, comme toutes les recettes, c'est souvent des erreurs qui aboutissent à des recettes qui tiennent la route, quoi.
Est-ce qu'on a le droit de remplacer la moitié de l'eau par la moitié de vin blanc ?
J'ai dit non.
D'accord.
Faut suivre la recette, François-Régis, enfin.
Il paraît que vous n'aimez pas trop la verveine.
Je crois pas après.
On va essayer de vous faire pardonner cette faute de goût.
On va déguster.
Esther El Payani, pendant le jingle, Jacques Maxima disait qu'il aimait bien la verveine avec des pêches. C'est plus trop la saison, malheureusement.
Heureusement, j'en ai porté un pot sous forme de confiture.
Et ben voilà,
sans le savoir.
Le hasard fait bien les choses, Jacques Maxima. Allez, on prendra bien un petit peu de verveine pour se détendre.
Ouais, là, c'est vrai que je suis carrément à bloc avec un tel chef dans le studio. Mais en fait, c'est surtout la faute de la verveine. Parce que c'est une herbe qui me fait beaucoup d'effet, culinairement parlant. J'ai tendance à en mettre partout, parce que certains mettent de l'eau dans leur vin. Moi, c'est la verveine dans mon eau. Car la première vertu de la verveine, justement, c'est sa capacité à transformer l'eau en un liquide délicieux.
Vous entendez, Jean Gagnès ?
Tout l'été, j'ai carburé à la branche de verveine fraîche, dans l'eau froide ou chaude, les deux marches, qui, avec son petit côté citronné, a la propriété d'enlever le goût chloré qu'a l'eau dans les carafes. Et maintenant que la bise est venue, je suis heureuse d'en avoir fait sécher.
Mais je vous trouve quand même un petit peu jeune pour... jouer les grands-mères, Esterel, la verveine.
Je me permets de vous rappeler, mon cher François-Régis, qu'on a le même âge.
Oui, c'est vrai.
Qu'on peut aimer la tisane sans avoir un âge canonique. Et puis, bien avant d'avoir cette image pas très glamour de pisse mémé, comme on la surnomme avec élégance et raffinement, la verveine était plutôt chaude bouillante, et pas que de la tisane. Mais parce qu'en fait, il y a verveine et verveine.
Ouh là là, attendez. Alors là, on va s'en mêler les pinceaux. Est-ce que c'est la verveine là qui vous monte à la tête ou...
On va revenir au commencement. À l'époque des Gaulois, des Romains, des druides et des sorcières. Ce qui poussait en Europe à ce moment-là, c'était la verbena officinalis, qui ne sent absolument pas le citron. Cette verveine était dédiée à Vénus, couronnait les prêtresses germaniques, mais servait aussi aux druides pour purifier les autels. On en accrochait des branches pour protéger les maisons, et même, on en glissait dans les filtres d'amour.
Ah.
Cette plante magique, on la trouve encore sèche dans les infusions, mais au final, on a un peu oublié son goût, assez discret.
Et l'autre verveine alors, celle qu'on connaît vraiment, qui est devenue très populaire, c'est ce qu'on appelle la verveine citronnelle, c'est ça ?
Tout à fait, mais en fait, c'est une autre plante de la même famille, qui vient d'Amérique du Sud et plus précisément du Pérou.
D'accord.
Elle a été ramenée au XVIIe siècle d'outre-Atlantique en Europe, et elle a même supplanté l'autre. Celle-là, c'est la Aloysia trifila, ou Aloysia citrodora, nommée en l'honneur de Marie-Louise de Parme, princesse des Asturies, femme de Charles de Bourbon, à qui appartenait le jardin où la plante a poussé avec succès en Europe. D'ailleurs, au Maroc, on appelle cette verveine Louisa, qui est la trace de son nom. Bref, cette verveine odorante aux notes hespéridées, elle n'a absolument rien à voir en goût avec la verveine des Romains. On a gagné en odeur et en parfum, mais au final, on a perdu les présupposés vertus aphrodisiaques.
Dommage.
De baise mémé, la verveine est devenue pisse mémé.
Mais qu'est-ce qui vous arrive, Estarelle ?
L'herbe des sorcières est devenue l'herbe de la princesse au parfum affolant. Mais entre sorcière et cuisinière, on a bien plus que le chaudron à potion ou à confiture en commun.
Ah, la verveine dans la confiture, j'adore ça. Vous en avez d'ailleurs de la confiture.
Voilà,
de pêche.
J'ai porté de la confiture de pêche à la verveine, mais en fait, ça va avec tout, la verveine. Dans les tartes, dans les salades, dans les compotes, la framboise, la nectarine, la mûre, la pêche, le melon, on peut y aller partout. Soit en éminçant directement quelques feuilles directement dans la salade, c'est pas mal si vous avez congelé, pensez à congeler des feuilles fraîches d'ailleurs, ça marche très très bien. Ou on peut faire simplement un sirop avec les feuilles sèches. Un fond d'eau dans la casserole, c'est très important. D'abord l'eau, ensuite le sucre, ça fond mieux. Mmh. On porte à ébullition, on fait infuser une branche de verveine hors du feu. On peut aussi la mixer avec un peu de sucre et s'en servir sur du pamplemousse ou de l'ananas.
Bonne idée ça.
Ça marche, c'est vraiment tout simple à faire. Après, dans le cuit-vapeur aussi, on peut le mettre directement dans l'eau.
Ça, je connais le truc. Ça permet d'aromatiser le bouillon avec lequel vous faites cuire un poisson vapeur.
Exactement. On peut même aller le mettre directement dans un beurre blanc parce que le gras capture les odeurs. Vous pouvez aussi le mettre dans de l'huile d'olive à infuser. Et tout ça, je l'ai mis en pratique dans le petit dessert que je vous ai apporté. Puisqu'il y a un petit peu de gras dedans, c'est simplement une panna cotta avec de la verveine à la place de la vanille, avec un tout petit peu de cette confiture de pêche à la vanille. Alors si vous voulez la faire...
Faire passer une panna cotta à la verveine avec confiture de pêche à la verveine à Jacques Maximin. Commentaire de dégustation, attention, pression estérelle.
Panna cotta verveine, oui. D'abord, la panna cotta est trop collée.
Oui, parce que comme je l'ai transportée, j'avais peur que ça passe dans tous les sens. J'ai mis trop d'agar-agar, je m'en suis rendu compte.
Ah,
on ne peut pas la lui faire à l'envers. Donc, si malgré tout, nos auditeurs ont quand même envie de tester chez eux, 30 centilitres de lait ou de lait d'amande, mélangé avec 25 centilitres de crème liquide entière, une cuillère à soupe de miel, on porte à ébullition, on saupoudre, alors au choix, vous pouvez la faire à l'agar-agar, si vous n'en mettez pas trop comme moi, soit à la gélatine. Si vous choisissez de mettre de la gélatine, vous la faites tremper avant, vous laissez entre vos mains, vous l'ajoutez dans le liquide chaud, mais pas bouillant. Si vous mettez de l'agar-agar, vous restez toujours sur la même marque que vous utilisez, pas comme moi qui, hier soir, ai changé de marque et en ai donc mis beaucoup trop. Donc, une demi-cuillère à café d'agar-agar suffira largement. Vous saupoudrez, vous portez à ébullition 2 minutes, c'est très important, il faut le faire chauffer pour qu'il prenne, dans des petits pots et au frigo.
Merci beaucoup. Estherel, il y a une dernière recette, mais malheureusement, il va falloir vraiment nous en dire un tout petit mot, car on arrive à la fin de cette émission. C'est avec les dernières tomates de la saison. C'était des tomates farcies à la ratatouille.
C'est une ratatouille un peu spéciale, hein. Patates douces, aubergines, concombres, courgettes, kumquats, raisins secs de Smyrne. Il y a du rhum, de la vanille.
Jérôme, qu'est-ce que vous en pensez?
Jérôme est en train de les déguster.
Moi, c'est admirable. Il y a le végétal, l'enchoyade est absolument extraordinaire et d'une finesse folle.
Ce livre, déontologiquement, au départ, c'était le légume devient le plat principal et la viande, l'élément d'accompagnement. C'est ça le paradoxe, c'est là.
En 98, d'accord, vous étiez déjà en avance sur votre temps, Jacques Maximin. Un grand merci d'être passé par le plateau dont on va déguster pour nous présenter la réédition de votre livre que vous avez co-signé avec Martine Joly, Jacques Maximin, Cuisine les légumes, 60 légumes, 420 recettes. On vous recommande chaleureusement ce livre. Vous avez compris en écoutant Jacques Maximin qu'il est plutôt d'une précision horlogère, maniaque, on peut même dire exigeant, ce qui fait que ces recettes en toute leur fiabilité. Merci Julien Dumas au fourneau de Lucas Carton.
Merci à vous.
Et merci beaucoup aussi à Vincent Rameau qui travaille pour Christophe Raoux.
Ouais, Christophe Raoux, un grand merci mon petit Christophe. Hein,
meilleur ouvrier de France.
Meilleur ouvrier de France, naturellement, avec un talent immense.
Et qui vous a aidé à dresser toutes ces assiettes légumières.
Et qui officie au Péninsula.
Et qui officie au Péninsula à Paris, merci de le préciser Estherel. Merci Jérôme. La semaine prochaine, une émission entièrement dédié, attention Jacques Maximin, ça va vous plaire, au pouvoir caché du chou-fleur. C'est fou, tout ce qu'on peut faire avec ce légume qui est parfois un peu considéré comme tristouin.
Je sais quelque chose parce que je viens de me faire un Saint-Honoré de chou-fleur en thème du concours des meilleurs de France.
Magnifique, on vous parlera aussi de la crème du Barry et j'en passe. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.